Alors nous allons écouter le texte de la prédication sur le thème toujours de la manne. Nous trouvons cela dans Jean. Dans Jean au chapitre 6, les versets 24 à 35. Lorsque la foule eut constaté que ni Jésus ni ses disciples ne se trouvaient là, les gens montèrent dans les barques et ils s'en allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Et quand ils l'eurent trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Œuvrez, non pas la nourriture qui périt, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que nous faut-il faire pour œuvrer les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est ici, afin que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui répliquèrent, « Mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions ? Quelle est ton œuvre ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit. Il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. » Il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. Ça, c'est écrit. Nous l'avons lu dans Exode, aussi dans le psaume 78, au début du culte. C'est écrit dans la Bible. Il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. » Voyons que Jésus ne répond pas à une question, il répond à autre chose. Ça arrive souvent dans l'évangile de Jean. La foule demande à Jésus, « Mais quand est-ce que tu es arrivé là ?» Elle avait bien vu que les disciples étaient tout seuls dans la barque, qui a quitté le sud de la mer, et que Capernaum étant au nord, les disciples ont traversé la mer en barque, mais Jésus, ils l'ont retrouvé aussi à Capernaum. Alors il dit, mais quelque chose qui ne colle pas, tu étais avec nous là-bas et maintenant on te retrouve là. Et Jésus ne répond pas, c'est très intéressant ça, il ne répond pas à cette question-là, il dit autre chose. Et voilà ce qu'il dit, œuvrez, non pas la nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure, en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Donc Jésus aurait pu, là, parler de la façon dont il est allé à Capernaum. Nous le savons parce que nous avons l'évangile. C'est écrit qu'il a marché sur la mer. Au milieu d'une tempête, ses disciples étaient, il les a secourus au moment où ils étaient en pleine détresse. Mais il ne le dit pas à la foule. Pourquoi ? Il aurait pu les épater en disant « Voilà, j'ai marché sur la mer !» Et puis, ils auraient même peut-être pu l'accepter, parce que le peuple hébreu, il n'a pas marché sur la mer, mais il a traversé une mer pour sortir, en sortant d'Égypte. C'est rappelé dans le psaume que nous avons lu. Il aurait pu montrer ainsi qu'il est vraiment le nouveau Moïse. Non, il ne parle pas de ce miracle. Il va parler de quelque chose qui est beaucoup plus important encore. Œuvrez. Œuvrez la nourriture. Non pas celle qui périt. Œuvrez. Faites ce qu'il faut pour acquérir cette nourriture qui demeure en vie éternelle. Jésus veut qu'il y ait un miracle à l'intérieur du cœur de l'homme. Il a fait beaucoup de miracles. L'évangile de Jean n'en raconte que, je crois, sept. On a sélectionné quelques-uns. Dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, on en trouve encore plus. Il a fait beaucoup de miracles extérieurs, des guérisons, des résurrections, de morts, et que sais-je encore, multiplication des pains, tout ça, nous le savons. Et puis il a arrêté. L'évangile de Jean dit que le dernier miracle, ça a été la résurrection de Lazare. Et après, il ne fait aucun miracle quand il est interrogé devant Pilate. Il ne fait aucun miracle quand il est arrêté. Il ne fait aucun miracle. Eh bien si, il en fait un, mais ce n'est pas un miracle extérieur, c'est un miracle qui se passe dans le cœur de l'être humain. C'est de ce miracle qu'il parle quand il dit œuvrez la nourriture. Faites, agissez pour avoir cette nourriture qui ne périt jamais, la nourriture qui demeure en vie éternelle. Alors la foule est tout disposée, elle est bien disposée, la foule. Elle est ok, on va faire les œuvres de Dieu. Elle dit, quelles sont les œuvres alors? Que nous faut-il faire, verset 28, pour travailler aux œuvres de Dieu? La foule utilise un pluriel, les œuvres de Dieu, parce que ce sont des Juifs. Ils savent bien que Dieu leur a donné des commandements, il faut les faire. Et Satan a à avoir des commandements de Jésus. Voilà. Voilà, point 1, 2, 3, 4, voilà, faites tout ça là. Que faut-il faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus répond par un singulier, au verset 29, l'œuvre, une œuvre, pas 36, l'œuvre de Dieu, c'est ici, ceci est l'œuvre de Dieu. Que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ça, c'est une parole, quand j'ai rencontré le Seigneur, qui a fait tilt dans mon esprit. Nous, on veut toujours faire les œuvres pour Dieu. Et puis Jésus dit, ceci est l'œuvre de Dieu. Que vous croyez. La foi est une œuvre que Dieu fait. Mais on peut l'interpréter aussi autrement. Ceci est l'œuvre de Dieu, à sorte que vous croyez. Maintenant, la foi, c'est... Ça doit être aussi notre œuvre. Faites quelque chose. Jésus nous dit les deux, que Dieu œuvre et en même temps nous avons à œuvrer. Il dit les deux. Nous, on sépare toujours les choses. On est cartésien, logique. Si tout vient de Dieu, si la foi vient de Dieu, ben, j'ai rien à faire. Parce que tout vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc j'attends. J'attends que ça me tombe dessus. Ben non, c'est un don de Dieu, mais tu peux faire. C'est un don de Dieu, mais vas-y, maintenant fais pour acquérir cette nourriture qui demeure en vie éternelle. Jamais, jamais cette nourriture ne périt. Il y a une nourriture que nous devons manger, que nous devons acquérir en croyant. J'allais dire le mot foi, mais ça aussi, ça m'a beaucoup étonné que dans l'évangile de Jean, il n'y a jamais le mot foi. Il y a toujours le verbe croire. Parce que ce n'est pas un acquis, la foi. Voilà, j'ai la foi. Ça, c'est nulle part dans l'évangile. Par contre, croire. Viens, et croire est synonyme de viens. Viens, dit Jésus, viens à moi. Viens à moi. Je
Jésus dit tout simplement, et le verbe venir est interchangeable avec le verbe croire dans l'évangile de Jean. Crois en Jésus, c'est-à-dire viens à lui, viens-le. Ou bien interchangeable ici dans le chapitre 6 avec le verbe manger, viens me manger. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie. Ah, tu peux venir manger. Tu peux venir boire le sang de Jésus. Il dit le Fils de l'homme pour montrer son origine qui est du ciel. Donc l'œuvre dont Jésus parle, elle est à la fois une œuvre de Dieu, une œuvre que nous pouvons faire. Il ne sépare pas les deux. On va essayer de comprendre un peu, parce que la Bible nous éclaire beaucoup. Dans l'Ancien Testament, le texte que Claude nous a lu dans Exode 16, qu'est-ce qu'ils ont dit les Hébreux quand ils ont vu le pain qui est descendu du ciel? Hein, c'était à la surface du désert. Là. Ils se sont regardés chacun son frère. Donc ils sont devenus frères déjà. C'est pas dans les traductions, mais en hébreu c'est comme ça. Chacun son frère. On reçoit le pain de vie et en même temps on devient des frères. Et ils ont dit en hébreu quelque chose de très difficile à traduire. Man, ou. Et on traduit. Une traduction possible, c'est d'où, lui, où c'est lui en hébreu, d'où vient lui, d'où est lui? C'est exactement la question qu'on se pose dans l'évangile de Jean sans arrêt à propos de Jésus, dans ce texte notamment, mais aussi dans Jean 9, 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est, d'où lui. C'est exactement ce que les Hébreux se sont dit l'un à l'autre en voyant la manne. D'où lui? L'origine de Jésus reste un mystère. Et dans le verset 27 que nous méditons particulièrement, Jésus parle de cette origine mystérieuse en se nommant lui-même, non pas moi, mais en disant celle. Travailler pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui le Fils de l'homme. Mais parle de lui, le Fils de l'homme. Il est devant eux et il parle en disant le Fils de l'homme. C'est lui. Donc il est connu, Jésus, comme étant sans mystère. C'est un homme sans mystère pour les Juifs de l'époque. Il connaissait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. C'est un homme sans mystère. Il était connu, et même quand Judas le fait arrêter, il doit convenir d'un signe avec les gens, les soldats, pour qu'ils arrêtent quelqu'un qui est dans un groupe là, avec d'autres juifs, des disciples, mais Jésus n'était pas comme dans les images pieuses, lumineux, comme ça, un halo de lumière. Non, il était un être humain. Il n'avait rien de mystérieux. Il devient mystérieux à partir du moment où il agit, à partir du moment où il parle, là. Mais d'où il est, lui? Mais d'où ça lui vient, tout ça? C'est là qu'on ne sait plus, tout d'un coup, d'où il est. Et cette origine de Jésus, Jésus lui-même nous dit, ici, au verset 35, « Je suis ». Plus de 10 fois, au moins 10 fois, il emploie cette expression « Je suis ». C'est une expression que Dieu lui-même utilise dans le buisson ardent pour se définir à Moïse. Il dit « Je suis ». Jésus emploie la même expression que Dieu qui se révèle à Moïse au moment où Moïse doit aller chercher les Hébreux de sortir d'Égypte. « Je suis ». La manne, donc, on ne sait pas d'où elle vient, on ne comprend pas l'origine, on ne comprend pas non plus l'origine de Jésus. Et la manne, d'après les targoums, c'est la façon que les Juifs entendaient la parole de Dieu. C'était en araméen, comme les églises en Syrie aujourd'hui, ou ceux qui restent des églises chaldéennes en Irak, elles écoutent la parole de Dieu en araméen, encore aujourd'hui. Et Jésus entendait la parole de Dieu en araméen, et en araméen, il était écrit que la manne, c'est un aliment qui était dans le ciel, et qui existait avant la création du monde. Cet aliment est descendu quand les Hébreux en ont eu besoin dans le désert. C'est un miracle nourricier, c'est pas simplement un miracle comme ça une fois, puisqu'il s'est reproduit tous les jours pendant 40 ans. Donc Jésus, il est cette nourriture qui était en réserve dans le ciel. Avant même que le monde soit créé, qu'il y ait les dinosaures, qu'il y ait les plantes, qu'il y ait les animaux, qu'il y ait les êtres humains, il y avait cette nourriture dans le ciel. C'est pour ça que nous devons la manger, pour aller dans le ciel. Parce que pour aller dans le ciel, il faut manger la nourriture qui est du ciel. Elle est descendue. Et les targoums sont admis comme parole de Dieu, parce que vous trouvez la manne qui est cachée dans le ciel, vous la trouvez mentionnée aussi dans Apocalypse. Apocalypse 2, verset 17, Jésus dit au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Dans notre texte, Jésus donne aussi des réponses sur son origine que nous ne connaissons pas. Parce que, toujours en se fondant sur ce que Dieu a déjà révélé à Israël. Dieu a révélé à Israël, donc il y a une nourriture dans le ciel qui existe avant la création. Dieu a aussi révélé à Israël qu'il y a une sagesse qui est comme une perse, qui est une personne vivante dans le ciel, une personne qui s'appelle la sagesse dans le livre des Proverbes, et aussi dans un autre livre que je vous recommande de lire, les protestants ne le lisent pas, mais c'est dommage, il est dans les Bibles œcuméniques, le Siracide. Dans le Siracide aussi, il y a une personne qui est auprès de Dieu, qui s'appelle la sagesse, qui cherche à venir dans ce monde, mais elle n'est pas acceptée dans ce monde. Un jour, elle vient en Israël. Donc Jésus, il est la sagesse qui était auprès de Dieu. Il faudrait toute une étude biblique pour expliquer que ça se trouve dans notre texte. Il vient de Dieu en tant que sagesse, en tant que personne qui est la sagesse même. Alors, je retourne toujours au verset. Jésus nous dit « Œuvrez la nourriture, faites ce qu'il faut pour acquérir la nourriture qui ne périt pas, mais la nourriture qui demeure. Œuvrez. » Et il dit, ceci est l'œuvre de Dieu que vous croyez. Donc c'est en même temps l'œuvre de Dieu et en même temps la nôtre. Mais c'est l'œuvre de Dieu. On le voit aussi par le fait que Jésus dit, la nourriture que le Fils de l'homme vous donnera, et il ajoute une précision au verset 25, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. De son sceau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. Nous, aujourd'hui, on ne marque plus d'un sceau. Mais il y a quelque chose, quand même, que nous pratiquons tous les jours, presque tous les jours. Nous signons, nous avons une signature. C'est ça ce que Jésus nous dit. Dieu a mis sa signature. C'est comme si Dieu, en donnant le sceau, son propre sceau, nous donne de faire, de prendre dans ce qui est à lui pour le vivre nous-mêmes. Prendre dans ses richesses à lui. Dans la parabole du fils prodigue, sur laquelle nous avons entendu des prédications de Alain Nadal, qu'est-ce que le père donne au fils quand il rentre ? Son anneau. Et ce n'est pas un anneau de mariage. C'est l'anneau avec le sceau. Il lui permet ainsi de prendre tout ce qu'il veut dans la maison. Tout. En lui donnant le sceau, vous donnez votre signature à quelqu'un, faites un chèque en blanc, et la personne peut prendre ce qu'elle veut sur votre compte bancaire. C'est ça qui nous est dit, qu'en Jésus, Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour acquérir ce qui est à lui. C'est pour ça que Jésus nous dit, acquérez maintenant, faites, œuvrez pour la vie éternelle, pour la nourriture, œuvrez pour cette nourriture-là. Nous sommes occupés toute la journée avec la nourriture pour le ventre, c'est de la nourriture périssable. Dieu prend soin de notre corps, nous devons prendre soin de notre corps. Mais il y a une autre nourriture, plus importante, qui demeure en vie éternelle. Et ce sceau, alors j'ai cherché des explications de ce sceau. Je n'ai trouvé aucun commentaire ne relève ce détail qui pour moi est à sa place ici au verset 27, qui est importante, une place importante au verset 27. Dieu m'a marqué de son sceau, dit Jésus. Pourquoi il le dit ici? Alors il y en a un commentateur qui dit ça doit être le Saint-Esprit. Ben, finalement oui, ça me plaît assez ça comme explication, car un peu plus loin. Quand il y en a beaucoup qui quittent Jésus après tout cet enseignement, il dit, mais la chair ne sert de rien, mes paroles sont esprit et vie. Et il le dit un peu plus loin dans notre texte. Voilà, c'est l'esprit qui vivifie, verset 63, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, le sceau dont nous avons besoin de la part de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit nous est donné? Par les paroles. Les paroles de Jésus, c'est des paroles pures, pleines de Saint-Esprit. Recevoir les paroles de Jésus, c'est recevoir le Saint-Esprit. Je l'interprète comme ça et je crois que c'est juste. Simplement, restons avec ces paroles. Et si elles n'entrent pas, restons avec ces paroles. Jésus dit, gardez mes paroles. Et ainsi vous allez demeurer en moi. Même si elles vous paraissent les plus incompréhensibles, gardez mes paroles. Ce sont des paroles pleines de Saint-Esprit. Et si vous les gardez, le Saint-Esprit va finir par faire son œuvre en vous. Moi, j'ai gardé ces paroles des années, sans rien comprendre. Et je ne comprends toujours pas grand-chose. Mais je les garde. Et alors, le Saint-Esprit fera son œuvre. Il me fait comprendre combien ces paroles sont simples si je ne les cherche pas avec mon intelligence, si je comprends qu'il y a Dieu qui agit par ces paroles aujourd'hui encore. Donc c'est l'œuvre de Dieu. C'est vraiment Dieu qui agit en donnant des paroles comme celle-ci. C'est Dieu qui agit en donnant le Saint-Esprit, en nous donnant le sceau. En Jésus, il nous donne le sceau. Nous pouvons prendre de ce qui appartient à Dieu et nous pouvons agir. Dans l'épître aux Éphésiens que je vous ai lu, dans ce passage que je vous ai lu pour, c'était le texte pour aujourd'hui, Paul, il nous dit d'arrêter de vivre comme on vivait avant d'avoir reçu le Christ. Et bon, il y a l'endurcissement du cœur, surtout la convoitise, la débauche. Et donc, finalement, il revient au commandement de Dieu. Mais il ne se base pas sur les commandements de Dieu pour nous inciter à une nouvelle vie. Le motif, le fondement pour vivre une nouvelle vie n'est pas les commandements de Dieu. Qu'est-ce qu'il donne comme fondement à un comportement nouveau? Ce fondement, il dit... ce que vous avez revêtu, l'homme nouveau. Éphésiens 4, 24. Vous avez revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu. Créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. La vérité crée un homme nouveau. C'est ça qui nous est dit dans la Bible. La vérité produit un homme nouveau. Elle le crée, la vérité, la parole de Dieu, vérité, crée l'homme nouveau et nous le revêtons. Qu'est-ce que ça veut dire avoir revêtu un homme nouveau, avoir revêtu le Christ? Eh bien, est-ce que vous avez déjà vu dans un restaurant 5 étoiles, dans la cuisine, un chef cuisinier avec un caleçon de cycliste, un t-shirt de cycliste et des chaussures de cycliste, et travailler comme ça dans sa cuisine. Inversement, est-ce que vous avez vu autour de France, sur un vélo, un cycliste qui avait une toque blanche, un pantalon blanc et un tablier blanc, habillé en cuisinier sur son vélo? Eh bien, vous voyez bien que l'habit fait que nous agissons d'une certaine façon. Quand nous revêtons un habit, c'est pour agir certaines choses qui sont en fonction de cet habit. Eh bien, Paul nous dit, vous avez revêtu l'homme nouveau, créé par Dieu. Donc vous pouvez agir autrement. Non pas seulement vous pouvez, mais vous avez cet habit pour faire cela justement. Faire autre chose que ce que vous faisiez avant. Et ça, c'est conforme à l'amour de Dieu qui vient dans ce monde. C'est conforme à la sainteté de Dieu qui veut se communiquer à ce monde. C'est conforme à la justice de Dieu qui veut nous ajuster à sa propre vie. C'est conforme à toute la vie de Dieu qui est amour. Et donc, vous ne faites plus ce que vous faites avant. Si vous avez cet habit, c'est pour faire autre chose. Donc, le fondement de la morale chrétienne, il n'est pas dans les commandements. C'est faux de penser ça. Nous accomplissons les commandements, mais pas parce que c'est les commandements qui sont le fondement. Le fondement, c'est que Dieu a agi par sa vérité en envoyant Jésus-Christ pour que nous le mangions et que nous produisions une nourriture. Que nous produisions une nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Nous sommes appelés donc par Jésus à vivre comme lui, à faire la même chose que lui. Il le dit clairement dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, moi. » Et là, il nous dit « œuvrez pour la nourriture. » qui demeure en vie éternelle. Œuvrez, faites les œuvres que... Et nous pouvons donc ressusciter des morts, nous pouvons guérir des malades, nous pouvons louer Dieu, nous pouvons prier. Tout ça, ça fait partie de la vie que nous avons reçue. Pas seulement une vie morale ou une vie autre que la débauche, c'est déjà pas mal, mais nous pouvons faire bien plus de choses, nous font faire les mêmes choses que Jésus. Jésus ne pouvait faire que ce que le Père faisait, et maintenant que Jésus nous dit de œuvrer pour la vie éternelle, nous pouvons œuvrer ce que Jésus a œuvré. Il nous donne de ne pas faire ce que lui faisait. Et il dit même, écoutez bien, dans Jean 14, 12, il dit « Et celui qui croit en moi fera des œuvres encore plus grandes que je n'ai fait. Parce que je vais au Père. » Ça, c'est merveilleux de savoir que Jésus étant auprès du Père, c'est une action qui continue. Et donc, sur terre, cette action peut continuer sur terre et elle peut être encore plus grande parce que Jésus acquiert, en étant auprès du Père, une force encore plus grande, des miracles encore plus grands que nous pouvons faire sur terre. Je termine, je pourrais encore dire tellement de choses, mais je voudrais terminer avec le fait que ce jour-là, quand Jésus a prononcé ces paroles, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Même ses disciples, il y en a plusieurs, beaucoup qui sont partis. Et Pierre, Jésus dit à ceux qui restent, vous voulez partir aussi, allez-y. Et Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, c'est dans Jean 6, donc, verset 69, « Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Pierre est resté. Et la suite dans l'évangile, on voit bien que Pierre aussi, il y a des moments où il ne comprenait rien. Il n'a même pas voulu que Jésus aille à la croix. Ce qui est le fondement même de ce que Jésus est venu faire, il ne l'a pas compris. Mais il est resté. Il a cru aux paroles de Jésus et son esprit est vide. Il a les paroles de la vie éternelle et il a été éclairé. Et il a pu faire lui-même des choses qu'il ne pensait jamais avoir pu pouvoir faire parce que le Saint-Esprit est venu le diriger. Donc les gens sont partis, mais
Jésus leur dit ici, vous avez, je vous l'ai dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Voilà, c'est au verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Il y aura une autre vision qui sera donnée quand il y aura ce miracle intérieur de la foi que Dieu produit. C'est dans Jean 19, on nous dit, au moment où Jésus meurt, ils verront celui qu'ils ont percé. Jean 19, 37. Toute cette foule qui est partie là, ils n'ont pas vu Jésus sur la croix, mais ils le verront. Et Dieu donne ce miracle de pouvoir voir Jésus et de recevoir la foi en le voyant. Amen.